Bismillahirrahmanirrahim. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر بين هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. السعادة.
J'implore Allah le généreux, le Seigneur du trône immense, de te prendre en charge sur terre et dans l'au-delà. Qu'il te rende béni où que tu sois, qu'il te compte parmi ceux qui le remercient lorsqu'ils sont comblés, patientant lorsqu'ils sont éprouvés, et qui se repentent lorsqu'ils commettent un péché. Ces trois attitudes incarnent les signes du bonheur.
Alors, voici les quatre règles de Cheikh Mohammed Ibn al-Wahhab. Donc, il est dit au début, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est une introduction, en fait, ça, au début. Il a commencé directement par faire les doigts, en fait. Il dit, As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Karim, al-Azim. As'alullah, alors, il a dit, j'invoque Allah, il demande, su'ad, al-Karim. Al-Karim, c'est un nom Allah, c'est ce qui est généreux, qui donne beaucoup et qui. C'est le fait d'être généreux. Rabb al-Arsh al-Azim, le Seigneur du trône immense. Et l'Arsh, on a dit ce que c'était. C'est quoi l'Arsh? L'Arsh.
C'est là où Allah s'est établi.
Ah. Ben, en arabe, ça veut dire quoi l'Arsh à la base?
C'est le trône.
Le trône du roi. Donc, et après, l'Arsh al-Azim, parce que c'est le plus grand des trônes, le plus immense en tout cas. Parce que, comme il dit, aussi un kursi, un dial kursi, il prend l'ampleur des cieux et de la terre. Et le kursi, c'est une partie du arche, en fait. C'est-à-dire que le kursi, dans l'arche, c'est comme une bague dans le désert. Tu vois. Alors, c'est vraiment tout petit. Donc. C'est-à-dire que l'arche est vraiment immense. C'est ça qu'il dit, Ardim. Ça, c'est le mot. Ardim, c'est-à-dire qu'il est très immense. Ça, c'est pour montrer en fait, l'immensité d'Allah. Après, donc, voilà, là, c'est l'arche et l'Ardim. Ardim, c'est par rapport à l'arche. Mais après, dans le Coran, des fois, il dit Ardim par rapport à Allah. Il dit Wadou de l'Arsh al-Majidi, de l'Arsh al-Majidou. De l'Arsh al-Majid, c'est le trône qui est immense. Et de l'Arsh al-Majidou, c'est Allah qui est immense. Et c'est possible parce que c'est un des noms d'Allah, c'est l'immense. Et si l'Arsh est immense, c'est-à-dire qu'Allah est encore plus immense que l'Arsh, c'est sûr. Et Azallah al-Karim, l'Arsh al-Azim, et Yatawallah, Kafidun et Akhira. Et Yatawallah, en gros, c'est qu'il te prend en charge. Qui te fera la charge et qui te soutienne et qui t'aide dans le dunya et dans l'akhira. C'est-à-dire qui te facilite à faire des bonnes actions dans le dunya et qui te guide dans le dunya. Après, qui dans l'akhira aussi te facilite toutes les épreuves de l'akhira dans la tombe, dans le Yom al-Kama, jusqu'à rentrer au paradis. Il a commencé par faire les doigts, comme il dit ça toujours. Ça, c'est un des adams, c'est que. Quand tu fais le professeur, toujours, il sait bien de faire des invocations pour son élève, d'invoquer pour lui. Même pour le père, il peut invoquer pour ses parents et tout, et pour ses enfants. Ça, c'est un adab, c'est pour montrer l'intention, en fait, l'attention du prof et du dédicateur. Il montre aussi qu'il est compassionné avec lui. Il est déjà avec un et il a demandé à Allah de faire toi. C'est béni. Au baraka, ça vient de la baraka. En esprit, ce que c'est le baraka, non?
Ouais, ça vient du birka. Ouais. C'est un étang d'eau, en fait. Ouais. Qui...
Donc, ça veut dire quoi, le baraka?
La baraka, ça veut dire quelque chose de durable, en fait.
Qu'il y a beaucoup de bien et que ça perdure. Après, bien sûr, comme on dit, le baraka, ça vient que d'Allah. On ne demande pas la baraka des gens, en fait. On ne cherche pas la baraka chez les gens. La baraka, c'est Allah. C'est Allah qui demande la baraka. Et les billets disent khayr. C'est dans la main d'Allah qu'il y a le bien. Après, ça nous a dit qu'il y a le baraka. Il y a deux types. Je ne sais pas si vous avez si on a dit ça. Vous savez pas? Il y a une baraka, la baraka du dette, la baraka du fi'l. La baraka du dette, c'est pour Allah, en gros. Son essence, il est béni, tu vois. Allah. Mais par contre, ça peut aussi être pour certains prophètes qu'Allah a décidé. Ton prophète Mohammed, il était béni Par exemple, il y avait tout que ses cheveux, cette transpiration, sa bave, tout ça c'était béni, tu vois. Mais tout ce qui est pur de lui, après ce qui est pas impur, comme tous les autres humains, ça c'est pas fait, c'est pas béni. Ça c'est le barakat de tête, c'est en fait son être qui est béni. Ça, mais ça c'est Allah qui décide ça. Il dit pas ça pour n'importe qui en fait, c'est Allah qui décide, et ça c'est dans le Coran, tu vois. Par exemple, dans Ishaq, il a dit au barak l'aïe ou ala Ishaq, Ibrahim Ishaq. Il a dit aussi, pour les endroits aussi, ça y est beaucoup. Pour Masjid al-Aqsa, il a dit barak la hawlahu. Ibn Qayyim a dit qu'il a cité 6 fois dans le Coran le fait que Masjid al-Aqsa est béni, tu vois, dans 6 endroits dans le Coran. Donc, ça c'est pour les endroits, pour les moments aussi, ça peut être pour les moments. Pour par exemple, le Shahr, pour le mois de Ramadan, il a dit, Jaakum Shahr Mubarak, c'est un mois qui est béni. Et après, Mecca aussi. Une Awwal Bayt Minna, ça dit, Mecca Mubarakan, lil Alamin.
Pour les choses aussi, non?
Hmm? Pour les choses, oui, c'est pour le Coran. Kidab Nazan Mubarakun. Le Coran, c'est béni. Mais ça, c'est Allah qui décide, et ça, il faut qu'on ait un délire sur ça, pour dire que c'est béni, tu vois. Ça, c'est Barakat Didat. En gros, c'est dans l'essence même de la chose, tu vois. Que ce soit dans une chose, dans une personne, dans un endroit ou dans un moment. Après, Barakat Fi'il, c'est la Barakat, en fait, que tu as avec les actions. Ça, c'est les avant, ils disent que le délire, c'est dans le hadith d'Aïcha. Quand elle a perdu un tayammum, là, l'histoire du tayammum, parce qu'en fait, elle disait, elle fait un voyage avec le professeur Zahm, elle dit, ben, après, le matin, avant le matin, quoi, Aïcha, elle a perdu un des colis que sa soeur avait prêté à Asma. Et après, elle a commencé à chercher et tout. Et du coup, après, ils sont restés la nuit. Et les gens sont restés, mais ils n'avaient pas d'eau. Et ils n'avaient pas de quoi faire les ablutions, tu vois. Ils étaient en voyage. Donc après, comme ils sont restés là jusqu'au matin, après, elle a fait le verset du tayammum. Et quand elle a fait descendre ça, après, un, parmi les gens qui étaient avec eux, il dit, c'est pas la première de votre baraka. C'est pas la première de votre bénédiction, en fait, tu vois. Mais c'est-à-dire, baraka, les faits, en fait, des actions. C'est-à-dire, vos actions, elles sont bénites. Et ça, et après, les gens, ils en profitent. C'est après, Allah a fait un verset sur ça. Il a dit ça, ma hiya bi awwali baratikum, barakatikum ya ala Abi Bakr. Il a dit, c'est pas la première fois que vous êtes bénis, ou la famille de Abu Bakr. Et ça, c'est pas pour les actions. C'est-à-dire, pour ça que les savants disent que celui qui est béni par rapport aux gens de la sunna et tout, c'est celui qui met une action, fait une bonne action, oui, il sera béni. Mais ça, il sera béni par rapport à ses actions, pas par rapport à ses naissances, tu vois. C'est ça que les soufis, ils comprennent pas ça. Eux, ils pensent, ils disent tabarouk. Tu vois, genre, ils cherchent la baraka des gens parce qu'ils, comme si celui en fait cherche la baraka, c'est qu'en fait il a une baraka et il peut t'en donner, tu vois. Alors que ça, c'est que pour les gens à qui il a mis la baraka, comme par exemple Mecca. C'est un endroit béni, tu peux aller, oui. Le Coran, c'est un truc qui est béni, oui. Alors maintenant, c'est moi qui est béni, oui. Le prophète, c'est une personne qui est béni, d'accord. Mais après, les autres, non. C'est pas possible de chercher la baraka des autres, sauf en faisant des actions. Toi, tu peux chercher toi-même en faisant des actions qu'elle t'a dit. Mais après, par contre, de dire que toi, tu cherches la baraka des gens et que tu vas faire, tu vois, ce qu'ils vont te tabarouk et tout, ça fait du chlik. Et c'est ça qui ramène le chlik, qui a fait que beaucoup, ils sont égarés dans ça. Donc, je demande à un autre qui te fasse de toi. Et que fasse toi que tu sois béni où que tu sois, comme il dit pour Isa. Il a dit il a fait que j'étais béni où que je sois. Ça c'est pour Isa, pour Isa, tu vois. C'est sûr que c'est pour les prophètes, c'est pour mais après c'est possible pour une personne aussi, si Allah il décide qu'il fasse que tu sois béni où que tu sois, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de bien où que tu sois, en fait, tu vois. Où que tu sois, que j'ai un prophète de toi, qu'il y a beaucoup de bien autour de toi, ça c'est possible. C'est Allah qui décide, non. Et bien sûr, il a demandé ça, on demande ça à Allah. Parce que le début, il dit As-salallahu al-Karim. Ça, on demande ça à Allah. On demande pas aux gens, en fait, qu'ils t'en bénissent, comme ils disent. Un peu comme par exemple, ils disent les chrétiens, je te bénis, tout ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas toi qui décide, c'est Allah qui décide, en fait. C'est Allah qu'on demande aussi les bénédictions. Et il fasse qu'il fasse de toi partie de ceux qui, lorsqu'on leur donne, ils le remercient. Il y en a dit, c'est quoi le shukr à la base? Je me rappelle pas.
C'est le remercier, chakra.
Oui, mais c'est le remercier, mais il veut dire dans le sens étymologique, chakra. C'est le contraire du kufr. Le kufr, c'est quoi?
C'est être ingrat.
Non, mais dans l'étymologiquement parlant, ça vient où le kufr? Quoi, ça veut dire quoi, takfir seyyat? Kafir anna seyyatina?
Des mauvaises actions.
Kafir anna seyyatina?
Effacer des mauvaises
actions. Comme le kafara aussi.
C'est l'effacement.
Effacement. En fait, effacement, mais en fait, ça veut dire le fait de cacher. Recouvrir. Donc, ça, c'est le kouf, ça veut dire recouvrir les bienfaits d'Allah. Et donc, le shukr, c'est l'inverse.
Dévoiler.
mais c'est de montrer en fait. Et Nevet Shakira, c'est l'Izhar. Et Shukr, il dit que c'est l'Izhar à la base. Et c'est ça qu'ils disent que, en fait, les Arabes, ils disaient pour une plante, genre quand ils plantaient une plante, après que ça, commençait, ça sortait, ils disaient Nevet Shakira. Alors, c'est la plante qui montre en fait que tout a bien poussé. Genre. Donc c'est ça que le Shukr, c'est le fait de montrer les bienfaits d'Allah et de les mettre en action, de les mettre en pratique. Quoi. Et ça peut être, comme on a dit, ça peut être avec le Shukr avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Avec le cœur, il a dit Pabtaghun Allah rizqa washkuruhu wa'budu washkuru la. Vous recherchez la rizqa auprès d'Allah, après vous le remerciez et vous l'adorez. Ça, c'est avec le cœur. Après, avec la langue, c'est continuer Alhamdulillah. Ça, c'est le fait de dire de louer Allah avec la parole. Et après, avec les actions, c'est en faisant des bonnes actions. Comme elle dit, Amalu ala daoud shukra. Il met en application les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Donc il a dit qu'Allah fasse que tu sois parmi les gens qui, lorsqu'on leur donne, ils remercient. Parce que quand tu remercies, après Allah va te rajouter. Celui à qui Allah donne, qui le remercie, ben Allah il le rajoute toujours. Et c'est pour ça que ça va, même le prophète, il a dit Inna Allah. C'est un hadith que le prophète a dit que Allah il aime bien voir ses bienfaits sur ses serviteurs. C'est ça qu'ils ont dit, quand tu pardonnes tes bienfaits, c'est parmi les choses, c'est fait que tu montres, et c'est pas partie du choc que tu caches. Genre, pendant une année, ils sont riches, tu vois, et le mec il se met, tu lui dis, tu vois, c'est un clochard, tu vois, ça sert à rien, ça, c'est pas ça le but. Et quand il est éprouvé, il patiente. Quand il est éprouvé, il est patient parce que l'ibtila, en fait, c'est l'imtihan, l'épreuve. Là, il te met l'épreuve pour voir si tu as présenté ou pas. Celui qui patiente, oui. Celui qui patiente et qui l'agrée, bien là, il va l'agrée. Et celui qui se met en courroux et qui s'énerve, ben là, il va faire la même chose contre lui. Tu vois. Et à l'ibtila, on a dit aussi, c'est comme une fitna. En fait, c'est le fait qu'Allah va te mettre beaucoup d'épreuves pour voir si tu es vraiment un croyant ou pas. Voilà, y'a'lamen Allah alladhina amanu wa y'lamen al-kadibin. Alladhina sadiqu wa y'lamen al-kadibin. Et le verset dit, y'a'lamen Allah alladhina amanu wa y'lamen al-munafiqin. On va voir ceux qui sont. On va vous éprouver pour voir ceux qui sont patients et ceux qui sont mujahid aussi. Et on va savoir ceux qui sont les croyants, ceux qui sont les hypocrites, qui sont les véridiques, qui sont les menteurs. Et ça, c'est dans les épreuves. C'est-à-dire que ça, c'est obligé. Le prophète dit Inna Allah ida habba qawman ibtalahum. Quand Allah aime des gens, et bien, il les éprouve, il les met dans l'épreuve. Et le but des frères, en fait, c'est que normalement, si la personne elle est croyante, la personne dit, mais après, ça va rajouter un peu. Mais si elle n'est pas croyante, par contre, elle va partir avec des preuves. Ça, c'est sûr, certain. Mais on avait dit que, par exemple, le fitna, notamment, ils disent que ce fitna, à la base, c'est le fait de. Les Arabes, ils appelaient ça pour l'or. Voilà. Ils prenaient pour voir si c'était du vrai or, si c'est du faux or. Ils mettaient sur le feu. Si c'est du vrai or, mais ça ne faisait rien, tu vois. Et si c'est du faux or, ça fondait. Pareil pour les. Là, ils mettaient des trucs, en fait, pour voir si c'était un croyant ou un faux croyant. Si c'est un vrai croyant, ben, tu vas pas santé. Et si tu as un faux croyant, ben, tu vas partir avec le fitna, après, ce sera fini. C'est ça. Le sabr, c'est le fait de se retenir. Le habs. Ça s'appelle le habs, c'est le fait de retenir. Et ils ont dit que le sabr, c'est en trois parties. Sabr à la ta'atillah, sabr à la merciatillah, sabr à la qadarillah. Le fait de patienter sur les obéissances, et de patienter face aux désobéissances, et de patienter face aux épreuves. Et c'est ce qu'il a dit là. Vous avez oublié de savoir. Bon, après, ce qu'il a dit là, en fait, bon, ça c'est une parole de Nukaïm, et ça m'a aussi tiré d'un hadith, en fait. Que le prophète a dit d'un hadith, il a dit Ajabin amir mu'min, in amra kullahu khay, in asabahu darra, sabar fahu khayla, ou in asabu sarra, chacun fakana khayla. Et en gros, le croyant, tout ce qu'il a, c'est bien. S'il a un mal, eh bien, il patiente, et ce serait mieux pour lui. Et s'il a un bien, il remercie et après c'est bien pour lui aussi. Donc après Ibn Qayyim a dit que ça veut dire que la foi c'est deux choses, patienter et remercier, patienter et remercier, sabr et shukr. C'est ça, la foi. Après, et celui qui fait, quand il fait des péchés, ben, il demande pardon. Parce que c'est obligé que la personne ne peut pas rester sans faire des péchés. C'est sûr, certain. Forcément, elle va faire des péchés. Donc, après, quand elle fait des péchés, elle demande pardon à Allah et elle se repentit. Et Sarfar l'a dit, c'est le fait de demander le marfaya, le pardon. Et le marfaya, c'est le fait de cacher qu'Allah cache ses péchés, quoi. C'est le fait de rafara, de recouvrir. Il cache ses péchés et qu'il fasse qu'il n'y ait plus de traces, quoi. Après, il y a eu Inna ha'ulat salaf, Anan sa'alam. Et ces trois choses-là, en fait, le fait de patienter aux épreuves et de remercier et de demander pardon, ça, c'est Anan sa'alam, en gros, c'est les trois choses qui, quand tu les mets, la personne aura le bonheur, le sa'ada, il sera un heureux. Après, il a commencé directement dans le texte. Vas-y.
Juste le bonheur. يعلم أرش دق الله اللي تعتري أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات.
Sache qu'Allah te dirige vers son obéissance, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, entame son discours par une invocation. C'est de cette façon. Sache que qu'Allah te dirige vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiya, consiste à vouer le culte exclusif au Seigneur, comme le relève le verset « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. »
En fait, il a commencé directement dans le texte. « I'lam, arshad kallahu ta'ati, pareil, i'lam, sache, c'est-à-dire que sache et soit sûr, sans doute en fait. » Parce que je veux dire, en gros, ça c'est ce qui est important. Et qui ne fait pas la vérité, donc il ne faut pas que tu doutes, il faut que tu sois sûr et que tu sois avec une science sur ça en fait. Et après le ilm, Charles Famine dit que de là que je suis à la main ou à l'aïe, le fait de savoir une chose comme elle est vraiment. Après il y a le djihad, après il y a le zon, après il y a le wahm. Le djihad c'est le fait de ne pas savoir une chose. Le wahm. Et le dhan, la différence, c'est que dans le wahm, en fait, c'est que la personne, elle pense une chose, mais elle n'est pas comme ça, et genre, elle doute, en fait, sans aucun, ils ont le même niveau, alors que dans le dhan, je crois qu'il y a une chose, il est plus sûr d'une chose que d'autre, en fait. C'est la différence. Bon, après, ça, c'est un truc qu'ils disent dans le fiqh, dans le usul fiqh en général, mais c'est pas... Et Adam, elle dit, en tout cas, sache, ça sera sûr, parce que ça, c'est un truc qui est la vérité. Parce que Allah t'a dit, pareil, il a fait une doua pour lui, qu'Allah te guide. Et Rushd, en fait, c'est que tu sois guidé, et c'est le contraire de l'oreille, le fait d'être égaré. Il t'a dit, qu'Allah te guide, qu'il te facilite, et il te dirige vers son obéissance. T'a dit, en gros, c'est toutes ses obéissances, parce que, comme c'est Moudaf, ça y'aoum. Quand c'est Muta'ati, ça veut dire toutes ses obéissances. Donc, il sache que le Hanifiyat, Minat Ibrahim, le Hanifiyat, la religion d'Ibrahim, le Hanifi, ça vient de Hanifan, Hanafa, ça veut dire en fait, c'est comme ils ont dit, c'est le fait de. Hanafa, c'est le fait de c'est mal, c'est-à-dire mal, c'est-à-dire en fait qu'il s'est détourné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le Hanifi, c'est le fait de se détourner du shirk vers le Tawhid, de Bida vers la Sunna, ainsi de suite, du péché vers l'obéissance. Ça s'appelle le Hanifi. Et Ibrahim, il était Hanifan, comme il a dit, Inna Ibrahim, kana ummatan, qu'indan Hanifa. Lillah, wala mekouna mushikin. C'était quelqu'un de Hanif, c'était un guide, à lui tout seul, un imam, et il était obéissant aussi à Allah. Et c'est le Hanifa, c'est-à-dire qu'il s'est détourné de l'origine de son peuple, qui était le shirk. Et après, il s'est tourné vers le Tawhid. Donc il a dit, c'est la religion d'Ibrahim. Après, pourquoi on dit toujours Milat d'Ibrahim? Pourquoi? Parce que le prophète, là, il l'a envoyé, en fait, il l'a envoyé avec la religion d'Ibrahim. En fait, ça veut dire que le prophète Mohammed, en fait, il est venu pour renouveler un peu la religion d'Ibrahim, tu vois. Et c'est connu que les Arabes, en fait, à l'époque, avant de l'islam, ils étaient sur la région d'Ibrahim, juste qu'ils avaient fait du shirk, en fait, tu vois. C'était la même religion. Ils faisaient le hajj et tout, de la même religion, ils connaissaient Ibrahim et tout. Sauf qu'ils ont fait du shirk. Et ils ont ajouté du shirk, c'est pour ça que, après Allah, il a envoyé le prophète Mohammed sallam, il a dit de suivre la religion d'Ibrahim. Et après, il y avait juste des choses. Bon, ça, c'est dans la raqida, c'est pareil. Après, il y a juste des derniers furu' et tout. Les autres, c'est peut-être qu'il y a des différences un peu, mais sinon, c'est la même base, c'est la religion d'Ibrahim. Mais la religion d'Ibrahim, c'est quoi? C'est que tu adores Allah seul, sans rien associer, en y voyant un culte exclusif. C'est quoi l'ibadah? C'est quoi l'ibadah? L'adoration.
L'adoration?
C'est quoi l'ibadah? Ça veut dire quoi? Abada.
C'est vous faire une chose pour.
Mais ça vient d'où l'ibadah? Ça vient de quel sens? Ça ne veut pas. L'ibadah, ça vient de. Ils ont dit en fait, c'est le zul, le fait de se rabaisser et de se montrer petit, en fait. Et ça vient de. En fait, on dit que l'ibadah, ça vient du fait de. comme tu as dit, un chemin qui a été aplati. Qui a été aplati par les pieds et qui a été, en gros. À force, tellement de gens ils l'ont truqué, ils l'ont aplati, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont rabaissé. En fait, c'est ça que Ibn Qayyim dit que l'ibada c'est ghayat al-zul ma ghayat al-mahabba. C'est le fait d'avoir le plus de rabaissement devant Allah et le plus d'amour possible pour Allah. Ces deux choses-là, il a dit Ibn Qayyim. Et après, Ibn Shahzam a dit que l'ibada, ça c'est une parole pour tout ce qu'Allah il aime comme parole et acte que ce soit apparent ou caché. Ism jami l'ikun ma yuhibullah, l'alqual al-zahir al-batina, wal-af'al al-zahir al-batina. Que ce soit des paroles, des actions. Apparent ou caché, tout ça s'appelle l'ibada. Donc, c'est, en fait, c'est ça la religion d'Ibrahim. C'est quoi? C'est que tu adores Allah, c'est-à-dire que tu te rabaisses devant Allah et que tu l'adores en faisant tout ce qu'il t'a dit comme action, parole, acte apparent caché. Wahdahu, lui seul, sans rien lui associer. Mukhlisun lahuddin. Mukhlisun lahuddin, et en y voyant avec l'ikhlas. Et l'ikhlas, c'est ce qu'on a dit, ce que c'était pour l'ikhlas.
C'est pas le truc pour parler. C'est-à-dire, en fait, dans le ventre de la vache, il y a plein de trucs, le sang, plein de trucs, et à la fin, le lait est surtout blanc. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que malgré tout ce qui peut entacher la foi, à la fin, il faut que ce soit pur.
Non, c'est la pureté, en fait. L'ikhlas, c'est une sophie, c'est ce qui est pur, et qui est net, en fait, qui n'est pas de tache. Comme il dit, Charab Razak, il dit, la banane khalissa, du lait qui sort, il sort entre les entrailles, le sang et tout. Après, quand il sort, tu vois qu'il est tout blanc. Il n'y a pas de tache de sang, il n'y a pas de tache de rien du tout. Tu vois. Donc, c'est vrai que Cheikh Berzak a dit il y a qu'un din ou qu'un safian, ça fait un laban. Que ta religion doit être pure pour Allah, comme la pureté du lait, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas d'entaché de shirk, ni de bid'a, ni rien du tout. C'est vraiment pur. Et l'ikhlas, ça vient de là. L'ikhlas, ça vient de là. C'est en fait une chose qui est pure, qui n'a pas de tache et qui est vraiment nette, quoi. Ça veut dire que tu dois faire une adoration qui n'être pas entachée de rien du tout pour Allah, en fait, que pour Allah. Et que ce soit petit chic, grand chic, tout, en fait, tout éviter, et pour que ce soit une adoration qui est pour ta religion et que ton adoration soit pure pour Allah. Mukhlisan lahu ad-din. Et ad-din, ça peut être, en fait, bon, le din, il y a plusieurs significations. Ça peut être la religion, ça peut aussi être l'obéissance. L'obéissance aussi, on dit ça pour le dîner. Mursana le dîner, c'est-à-dire que tu l'obéis en étant sincère et en étant avec ikhlas. Donc la religion d'Ibrahim, c'est ça. D'Abdallah, wahdahu mursana le dîner, et ma kala ta'ala, wa ma khalaqat al-jinn wa l'ins, illa li'abdun. Comme Allah l'a dit dans le Coran, wa ma khalaqat al-jinn wa l'ins, et j'ai pas créé les djinns et les hommes, si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Illa li'abdun, Ibn Abbas a dit, ayy wahidun, pour qu'ils me unifient dans l'adoration. Je n'ai pas créé les djinns et les ins. Les djinns, c'est connu, ceux qui sont cachés des yeux des hommes. Et les ins, c'est les hommes. Insan. Il l'a dit à Abou Nukub pour qu'il m'adore, en fait. Le but, en fait, de la création, elle a été créée, c'est pour que tu l'adores. C'est pas pour que, comme il dit Sharon Ben, c'est pas pour que tu crées des maisons, des voitures et tout. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que tu adores. Non, après, tout ça, en fait, c'est fait pour quoi? C'est pour que. Pour t'aider, en fait. Ça, c'est pour t'aider dans l'adoration d'Allah, en fait. Tu vois. Mais c'est ça, le but, c'est ça. Donc, ça veut dire, et aussi, c'est qu'il y a besoin de dire qu'ils unifient dans son religion. Tu vois. C'est-à-dire qu'il n'a pas rien d'autre si ce n'est qu'Allah. Après, en fait, l'homme, les djinns aussi pareil, ça veut dire qu'ils sont tous les deux mukallaf. C'est-à-dire que les djinns aussi, ils doivent adorer Allah comme nous. Ils doivent adorer Allah comme nous, ils doivent faire des adorations comme nous, en fait, pareil. Ils sont exactement comme les hommes, il n'y a pas de différence. Après, même, ils ont dit, chez les djinns, il y a aussi des hommes et des femmes, il y a des, genre, des gens sunnis, bid'a, il y a des gens, des mu'tazis, il y a tout. Chez les djinns, exactement comme chez les hommes, il n'y a pas de différence. Non. Mais Cheikh Fawzan, il a dit. Il a dit. Juste un moment, s'il vous plaît. اعلم ارشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله هكذا ينبغي للمعلم يدعو للمتعلم وطاعة الله معناها امتثال اوامره واجتناب نواهيه وان حنيفية ملة ابراهيم الله عز وجل امر نبينا باتباع ملة ابراهيم وقال تعالى ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين والحنيفية ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه السلام والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه هذا هو الحنيف المقبل على الله بقلبه وأعماله ونيته ومقاصده كلها لله والمعرض عما سواه والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم وما جعلنا عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وهذه هي الحنيفية ما قال أن تعبد الله فقط بل قال مخلصا له الدين يعني أن تجتنب الشرك لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت فلا يكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين جمع حنيف وهو مخلص لله حنفاء يعني جمع حنيف وهو المخلص لله هذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون معنى يعبدون يفيدني بالعبادة فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل لكن الحكمة من خلقهم هي هذه فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته لذا قال عز وجل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وكلهم من بني إسرائيل حفيد وكل من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام إلا محمدا فإنه صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل وكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه السلام تكرما له وجعله الله إماما للناس يعني قدوة وقال إني جعلك للناس إماما يعني قدوة إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به وبذلك أمر الله جميع الخلق وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغير من النبيين كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فأما الشرائع التي هي من الأوامر والنهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات ويشرع الله الشريعة شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هذه إلى أن تقوم الساعة أما أصل دين الأنبياء فهو التوحيد وهو لم ينسخ ولن ينسخ دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد وأما الشرائع فقد تختلف وتنسخ لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع فإذا نسخت صار العمل بالناسخ وهو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله شفران الذي il a dit, cherche qu'Allah dirige vers son obéissance, l'auteur, qu'Allah lui fasse une miséricorde, entame son discours par une invocation. C'est de cette façon que l'enseignant doit se comporter avec ses élèves. L'obéissance signifie exécuter les obligations et s'éloigner des interdictions, comme il a dit. Et que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiya, qu'Allah a ordonné à notre prophète de suivre, et la religion d'Ibrahim dans le verset suivant, puis nous avons révélé, suis la religion d'Ibrahim, fidèle à Allah, il ne comptait pas parmi les païens, c'est les mouchikines. La Hanifiya est la religion du serviteur fidèle à Allah, le Hanif, qui n'est autre que Ibrahim. Le Hanif, c'est celui qui se consacre à Allah sans se détourner de toute autre personne. Qui se détourne de toute autre personne plutôt. Il se tourne vers son Seigneur avec son cœur, ses actes et ses intentions qui sont toutes orientées vers Allah. Et il se détourne en même temps des autres. Allah nous a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim. Il ne nous a pas imposé aucune de la religion qui est celle de votre père Ibrahim. La religion d'Ibrahim consiste à avouer le culte exclusif à Allah, c'est l'ikhlas, au Seigneur. C'est donc la définition de la religion al-Hanifiya. L'auteur ne s'est pas contenté de dire qu'il fallait adorer le Seigneur, mais il a précisé que l'on devait lui rendre un culte exclusif, c'est l'ikhlas. Autrement dit, il est comme de s'éloigner de l'association. Toute adoration qui est mêlée avec de l'association est automatiquement annulée. L'adoration ne peut être effective sans être exempte d'association, qu'elle soit petite ou grande, shirk asghar ou akbar. Allah a dit dans le Coran, il ne leur fut simplement ordonné que d'être fidèle à Allah en lui vouant le culte exclusif. C'est plutôt ordonné d'adorer Allah, c'est pas fidèle. En lui vouant un culte exclusif, c'est à l'ikhlas. Et le plural de Hanif qui se dévoue uniquement à Allah. Le devoir d'adorer Allah concerne toute la création, comme le verset dans le sourate Zariyat, je n'ai créé les hommes et djinns que pour qu'ils m'adorent. Adorer signifie ici consacrer l'adoration exclusive. Ainsi, la sagesse qui se cache derrière la création des êtres vivants, c'est de rendre le culte exclusif au Tout-Puissant. S'il y en a qui y sont conformés, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il n'empêche que la raison pour laquelle il fait sortie du néant, c'est-à-dire qu'il a été créé, ainsi, en adorant une simple idole, on s'oppose à la sagesse divine pour laquelle les hommes sont sur terre et de surcroît à la législation divine. La religion d'Allah. Quant à Ibrahim, il est le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. Parce que tous les prophètes après lui sont tous des descendants. Parce que Ibrahim, il a eu un fils Ishaq et Ismaïl. Et Ishaq, c'est lui Israël. C'est le deuxième nom de Ishaq, c'est Israël. C'est ça que Ben Israël, ses enfants, tous les descendants de Ishaq. Ismaïl, parmi Ismaïl, il n'y a que le prophète Mohammed Sallam comme parmi ses descendants qui sont des prophètes. Ils sont tous alignés d'Israël, le petit-fils d'Ibrahim. À l'exception de Mohammed qui est un nom de Ismaïl. Et tout Israël, c'est Ishaq. Ainsi, tous les prophètes remontent à la même lignée. C'est un hommage qu'Allah a rendu à Ibrahim. Ce dernier est un imam pour les hommes, dans le sens d'exemple à suivre. Il dit, je ferai de toi un exemple pour les hommes. C'est-à-dire un sens, un modèle à suivre. Ibrahim était une umma, c'est-à-dire lui seul, dans le sens d'un imam qui mérite d'être imité. D'autres savants disent que lui seul, il est équivalent à l'équivalent d'une communauté. C'est possible aussi. Donc, après, Allah ordonne à toutes les créations de suivre cet exemple, comme le révèle dans le verset, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ibrahim invita les hommes à vouer le culte à Allah de la même manière que tous les prophètes. Ces derniers avaient la même mission d'adorer Allah, le Seigneur, et de délaisser les idoles, comme il dit dans le verset, et nous avons envoyé à chaque communauté, à chaque moment, à chaque religion, parce que Ummah, ça veut dire chaque communauté, chaque moment, chaque religion, et chaque endroit, un messager en disant, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Le tarot, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. En revanche, les différentes situations prophétiques qui s'incarnent dans les obligations, interdictions, illicites et illicites, elles varient d'une nation à une autre en fonction des besoins du moment. Allah établissait une législation, puis qu'il l'abrogeait, ensuite par une autre, et cela jusqu'à l'événement de l'islam. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait des religions séparées dans toutes les mêmes bases, mais après, juste il y a des choses qui changeaient par rapport à la prière, la zakat et tout. Sinon, c'est à peu près la même chose dans la base. La dernière révélation est venue abroger toutes les anciennes lois célestes sans exception, sur l'islam. Celle-ci restera en vigueur jusqu'à la fin du monde. La religion des prophètes est fondée sur le principe immuable de dogme, d'unicité, tawhid. Elle ne peut donc souffrir d'abrogation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abrogation de nasr dans la raqid. La raqid et le nasr, ça, c'est que dans. C'est pas dans les akhbar, en plus, c'est dans les awam, dans les ordres. Après, les akhbar, les informations qu'elle les donne, il n'y a pas de nasr. Comme par exemple, en fait. Comme toi, tu dis, genre, tu dis, si jamais tu avais un serviteur, tu dis, fais ça, après, tu dis, non, c'est bon, fais plus ça, tu vois, tu changes d'ordre. Mais par contre, si tu dis, oui, j'ai fait ça. Après, non, en fait, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Ça, c'est une mensonge, tu vois. Mais c'est pas possible. Mais c'est dans les informations qu'Allah t'a données, tu vas pas dire qu'il n'y a pas de nasr dans les informations qu'Allah donne. Que ce soit dans les noms et tout, dans la religion, ça n'y a pas de nasr. Ce serait du mensonge, et ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, il peut pas être abrogé, il peut pas être mansour, l'aqida. Il consiste à une seule religion qui est l'islam, incarné au tawhid, qui consiste à vouer le culte exclusif à Allah, l'ikhlas. Si les lois sont jugées à l'immigration, c'est-à-dire les ordres et tout, ce n'est pas le cas pour le principe du tawhid sur lequel repose la religion des prophètes depuis Adam jusqu'au dernier d'entre eux, Mohammed. La croyance est toujours la même, tous appellent au tawhid et à l'immigration d'Allah, et ils sont tous musulmans. C'est ça que le cher Zamin a dit qu'en fait, l'islam, dans le sens général, c'est la religion des prophètes du début jusqu'à la fin. Après, dans le sens particulier, c'est l'islam qu'on connaît nous aujourd'hui, après le prophète Mohammed est venu. Et cette adoration consiste à obéir au Seigneur conformément à la loi céleste en vigueur et à l'époque où on vit. Alors nous, on met en application le Coran, et parce qu'on est dans l'époque de l'islam. Après, ce qu'ils étaient avant nous, ils devaient mettre en application ce qu'ils avaient à mettre en application. Mais aujourd'hui, c'est plus possible en tout cas. C'est pour ça que le prophète Ibn al-Hadith, il a dit que si jamais Moussa était vivant, et bien, il n'aurait pas le choix que nous suivre. Et si jamais vous le suivez, vous vous égarez. Même avec c'est Moussa. Et même Isa, quand il va descendre Yom al-Kamab, il va mettre en application le Coran. Il ne va pas mettre en application le Torah ou l'Injil. Il va mettre en application le Coran et il va même prier derrière les musulmans. Puis à l'avènement d'une nouvelle loi, et bien, il incombe d'abandonner l'ancienne. Alors s'il y a une nouvelle religion, on laisse l'ancienne et on prend la nouvelle. Dès lors, l'adoration consiste à suivre la législation la plus récente. Et c'est l'islam. Vous avez compris? Non, en tout cas, le plus important, c'est qu'il disait en fait, au début, bon, le chèque m'a parlé de Doha, ensuite expliquer que la religion de l'islam, c'est la religion d'Ibrahim, et la religion d'Ibrahim, c'est quoi? C'est d'adorer Allah seul, sans rien associer. Et c'est pour ça que les hommes étaient créés, et les djinns aussi, pareil. Bon, après, il va détailler en fait comment l'adoration, ce qui empêche l'adoration et tout, et petit à petit. On verra ça la prochaine fois.